questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Alors cette semaine, nous allons parler des actions modélisées de l'association France Alzheimer qui œuvre, vous le savez, dans tous les départements français à vos côtés. On reviendra ces prochaines semaines sur ces actions. Aujourd'hui, direction l'Eure-et-Loire, où a été lancé en septembre dernier le programme Vivre avec la maladie dans l'association du département. Et pour parler de cette thématique, nous sommes avec Michel Barrier, vice-président France Alzheimer Eure-et-Loire et animateur de la première édition du programme. Également avec nous, Sylvie, 52 ans du territoire de Belfort, qui, elle, en tant que malade jeune, a pris part à la formation. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous, Michel. Première question, ce programme Vivre avec la maladie, de quoi s'agit-il exactement ?
C'est un programme qui est destiné aux personnes qui sont en début de maladie, donc des personnes récemment diagnostiquées, et qui est destiné à leur faire connaître mieux leur maladie et surtout à leur donner davantage d'estime de soi, de confiance en soi et de se prendre en charge en quelque sorte. Et surtout de garder l'envie de vivre, l'envie de mener des projets. C'est ça qui est le plus important, c'est qu'ils puissent vivre et maintenir autant que possible les compétences qui sont toujours présentes chez eux.
Et vous, de votre côté, Sylvie, qu'avez-vous pensé globalement de ce programme ?
Alors, la globalité, je dirais qu'on a eu un grand échange, surtout, c'est ça. Connaître des personnes qui ont la même maladie que nous, donc c'est un plus aussi. Ensuite, on a pu un petit peu partager sur la maladie, partager sur notre entourage. En fait, aussi, on a fait un thème sur le stress. Donc, dans la globalité, ça nous a permis de bien nous connaître aussi, puis d'apprendre des petites techniques pour nous aider au quotidien, en fait. Entre l'un et les uns et les autres, on s'est échangé. Et puis aussi, l'atelier nous a permis de pouvoir gérer tous ces problèmes au quotidien qu'on rencontre.
Alors, comment se passe le déroulé de ce programme ? Quelle est son organisation, concrètement ?
Alors, c'est un programme que nous avons proposé à des personnes que nous connaissions, du fait que les aidants, par exemple, suivaient des activités chez nous. La première difficulté, c'est de constituer un groupe, d'estimer les personnes qui pourront suivre cette activité. Après quoi, nous travaillons en binôme. En binôme, donc une psychologue, enfin un ou une psychologue, et un ou une bénévole. Donc, je fais partie de ce binôme en tant que bénévole. Et la première démarche, c'est de faire un bilan éducatif partagé. Donc, c'est un terme un petit peu savant, mais c'est une manière de mieux connaître les personnes et surtout de connaître leurs souhaits et leurs besoins, du fait qu'il s'agit d'une approche centrée sur la personne. Après quoi, nous constituons notre petit groupe. Alors nous, de notre côté, nous avons fait une première réunion avant les ateliers pour que les personnes se connaissent un peu. Et après quoi, en fait, nous avons un programme de 6 ateliers. Ce sont des ateliers thématiques. Le premier atelier, c'est le but d'échanger avec eux surtout et de travailler sur la connaissance de la maladie, sur les compétences qu'ils ont, les solutions qu'ils trouvent, les outils aussi, ou les outils qui sont... qu'ils utilisent aujourd'hui, des outils qu'on peut leur suggérer également. Donc il y a un bel échange à ce niveau-là, l'usage d'agenda, l'usage très technique, comme ça peut être des astuces. C'est intéressant de voir comment les gens développent leurs propres solutions et les font partager aux autres. Il y a également un atelier sur l'entourage, sur les relations avec l'entourage, qui est vraiment très très intéressant, qui fait remonter pas mal d'émotions. C'est un bel atelier également. Un atelier sur la gestion du stress. C'était l'occasion de faire un petit peu de relaxation et de sophrologie. Et c'était très apprécié. Le dernier atelier, c'est « De quoi ai-je envie ?». Ça permet aux gens d'exprimer leur envie, de voir dans quelle mesure ils peuvent les réaliser. Alors cet atelier-là, pour être très clair, on ne l'a pas encore réalisé. Parce que nous avions prévu un programme sur la fin d'année, entre septembre et fin novembre. Et malheureusement, du fait d'absence de certaines des personnes, nous avons dû décaler. Donc, le dernier atelier n'aura lieu qu'en janvier. Ça permet aux gens, disons, déjà on leur a donné les éléments de réflexion et je pense que cet atelier sera très riche. Et puis, la dernière phase de l'opération, si je puis dire, du programme en tout cas, c'est le bilan éducatif partagé final. Donc c'est le moment où on échange avec les personnes individuellement. Éventuellement, on peut également solliciter le témoignage des aidants. Un des grands intérêts de ces ateliers, ce sont des ateliers que l'on fait avec les malades d'Alzheimer, sans leur aidant. Donc ça leur permet de s'exprimer assez librement et donc d'être très spontané et d'aller assez loin dans leur expression. C'est quelque chose qu'on voit apparaître au fur et à mesure du programme.
Alors Michel vient de nous décrire l'ensemble des ateliers de cette formation. Sylvie, vous qui les avez vécus de l'intérieur, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors le premier atelier, on se présente, on explique un peu notre expérience sur la maladie, en fait, ce qu'on y connaît de la maladie, ce qu'on nous a dit de la maladie, comment on l'a appris en fait. Donc ça c'est le premier thème qu'on fait. C'est un échange un petit peu, on va dire le premier, on se connaît pas. Donc c'est un peu plus difficile de pouvoir parler de nous aussi. Hein. Donc voilà, on est jeunes, les uns et les autres ont leur caractère différent. Donc voilà, on peut un peu débattre, essayer de se connaître, on va dire le premier. Après, le deuxième, on dit ce qu'on a comme compétences en fait, et qu'est-ce qu'on prend comme comment on s'aide au quotidien en fait. Avec les petites alarmes, avec des petites choses, avec peut-être un appel de quelqu'un ou une aide à domicile. Ou, voilà. Donc, on essaye de dire ce qu'on a, nous, comme compétences ben, pour gérer notre quotidien avec cette maladie. Et on se partage dans des solutions. Ça nous apporte un plus parce que ben, finalement, on a les astuces des autres qu'on n'avait pas. Et on ressort un petit peu plus enrichi au niveau de la maladie et comment nous aider au quotidien. Après, on a aussi un atelier où on parle beaucoup de notre entourage. Ça peut être la famille, comme les amis, comme un voisin, comme voilà. Donc là, on parle et on essaye de discuter sur les difficultés qu'on rencontre avec les uns et les autres, ou même les choses qui vont bien, hein, parce qu'il y a des choses qui vont bien aussi avec notre entourage. Hein. Ça peut nous rapprocher avec notre mari aussi, la maladie. Hein, et on parle de ça donc pendant une heure, deux heures même. Donc, on a différents thèmes. En général, il y a des cartes qu'amène la responsable qui s'occupe de l'atelier. Par exemple, il y a marqué mon mari, il y a marqué mes amis, et on doit les mettre dans un cercle et dire où ils se retrouvent, plus proches, loin, pourquoi, et expliquer pourquoi on a ce relationnel, en fait, avec cet entourage-là. Ensuite, on fait un atelier aussi de relaxation. Cet atelier, on apprend à gérer notre stress parce qu'on est très stressé quand on a la maladie d'Alzheimer. Bon, dans d'autres cas aussi, hein, d'autres maladies et sans avoir de maladie, on est stressé dans la vie en général. Et ça nous apprend à gérer notre stress, comment apprendre à souffler, comment écouter peut-être de la musique. Donc, les petites astuces pour gérer notre stress au quotidien. Et on parle aussi de notre stress et pourquoi on a du stress aussi. On débat sur ce sujet pendant ces deux heures. Après, le dernier atelier, ben, on discute en fait de nos projets, ce qu'on a envie de faire plus tard ou même à l'instant T. Donc, on fait des projets sur l'avenir, malgré qu'on sache que notre avenir est incertain. On ne sait pas combien de temps la maladie va durer et à quel moment on sera plus maître de nous-mêmes. Donc, on parle de nos envies à l'instant T, des voyages, des choses. Et là, pareil, on a des petites cartes et on marque, on doit les déposer devant nous. Et ça nous permet d'avoir une discussion, un débat sur nos projets et nous voir dans l'avenir. C'est important aussi.
Et en effet, comme vous le dites, Sylvie, c'est extrêmement important. Michel, vous nous décriviez tout à l'heure l'ensemble des ateliers. Le premier porte sur la connaissance de la maladie. Quand les participants arrivent à cet atelier, quelle est leur propre connaissance de la maladie d'Alzheimer, qui est leur maladie ?
Alors, cette connaissance est assez variable, parce que certaines personnes ne souhaitent pas s'interroger sur la maladie, préfèrent un petit peu la laisser de côté. Le premier atelier qui concerne surtout les idées reçues leur apporte beaucoup. Je trouve généralement leur connaissance de la maladie et surtout une peur qu'ils ressentent par rapport à des personnes quelquefois très proches d'ailleurs, hein, ça peut être leurs parents, qui ont eux-mêmes été malades. Donc en fait, ils ont cette peur de la maladie telle qu'ils l'ont vécue au travers de personnes connues, mais il est important de bien cibler, de bien voir ensemble quelle est cette maladie. Comment elle se déroule, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ou tout au moins ralentir les effets Et là, il y a beaucoup d'intérêt parce que les gens, en fait, n'y ont pas forcément pensé à ça.
Alors sur cette antenne, on parle souvent de l'entourage, de ces aidants qui sont en première ligne tout au long de cette maladie. L'atelier numéro 4 fait justement état, hein, de l'entourage, de la place des malades par rapport à leurs proches. Est-ce que cet atelier débloque des choses?
Bon, par exemple, il y a un point important que j'ai remarqué, c'est que certaines personnes sont très aidées, je dirais, leur aidant est vraiment formidable, il fait beaucoup de choses pour eux, mais ça les gêne quelque part parce qu'ils perdent leur autonomie. Et donc, ils ont besoin d'exprimer auprès de leur conjoint leur besoin d'autonomie. Et puis d'autres, au contraire, se reposent sur le conjoint. On leur montre qu'ils peuvent garder un petit peu d'autonomie. Donc ça les amène à échanger avec leurs proches. Il y a aussi le fait de taire leur maladie par rapport à l'entourage. Alors, ça peut être aux enfants, ça peut être des voisins. Bien que, alors beaucoup disent que leur entourage n'est pas au courant. Bon, ça, c'est la vision qu'ils en ont. Il est probable que ça soit pas si clair que ça. Mais le fait de les amener à échanger avec leur entourage davantage, je pense, ça leur apporte beaucoup.
Il y a quelque chose de très important dans ce que vous avez dit, c'est que la vie continue malgré la maladie, qu'il faut continuer à avoir envie de vivre. C'est important de le dire, surtout après le choc souvent du diagnostic. L'atelier numéro 6 s'intitule Dresser la liste de mes envies. C'est justement une ouverture vers le futur et vers cette vie qui continue.
Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, bon, j'ai cité quelques bienfaits des ateliers, de ce programme, mais si je devais en conserver un seul, c'est vraiment ça c'est de continuer à vivre, de continuer à être dans la vie de tous les jours, et puis d'avoir envie de faire des activités. Cet atelier n'a pas encore eu lieu, mais on ressent déjà auprès des gens, ils ont des activités qu'ils ont faites dans le passé et qu'ils n'osent peut-être plus faire. Il y a peut-être des choses qu'ils vont découvrir. Et je pense que c'est important, enfin c'est même très important. Quand j'ai eu la formation pour ce programme, ma première idée, ça a été de me dire, c'est vraiment très bien, mais après, est-ce qu'on laisse les gens Je pense qu'on va continuer par un groupe d'entraide et proposer des activités dans le groupe pour satisfaire les envies, disons, simples, d'être ensemble, de visiter quelque chose, de tester une activité manuelle ou je sais pas, hein, ça dépendra. C'est vraiment les personnes du groupe qui vont choisir, et c'est ça qui est très important d'ailleurs. Donc je vais les laisser choisir en fonction de leur envie justement, et je pense que leur envie va peut-être évoluer. Je l'espère d'ailleurs que faire certaines activités va leur donner envie d'en faire d'autres. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est que les gens restent dans la vie et ne se mettent pas en retrait.
Continuer à vivre, ne pas rester de côté. Justement, Sylvie, pour vous, ce programme, est-ce que ça permet d'avoir des clés pour votre avenir?
Oui, je pense que moi, ça m'a permis déjà de voir qu'il y avait d'autres personnes comme moi, jeunes, malades, parce que j'avais 49 ans quand j'ai été diagnostiquée. Donc, ça m'a permis donc de voir déjà d'autres personnes comme moi. Ça m'a permis de pouvoir échanger et de se donner des astuces et de voir l'avenir un petit peu plus sereinement, on va dire. Ça m'a aidé de voir que les autres aussi arrivaient à vivre au quotidien malgré leur maladie. Et on se projette un petit peu plus, on va dire, après ces ateliers.
Alors, il y a ensuite ce bilan final avec les intervenants du programme qui disent ce que les ateliers leur ont apporté. Et vous, Michel, du coup, quel est votre rôle là-dedans?
Eh bien, nous, c'est de faire un petit point avec eux, donc les interroger sur leur vécu. Déjà, la satisfaction, est-ce qu'ils sont... Alors ça, j'ai déjà des éléments de réponse, parce que à chaque séance, ils sont très contents de se retrouver, de nous retrouver. Quand on se quitte, ils nous expriment souvent, enfin toujours d'ailleurs, leur satisfaction de participer. Ça, je suis assez rassuré. Et de voir les apprentissages et les compétences qu'ils ont développées, est-ce qu'ils appliquent réellement au quotidien dans leur vie? Là aussi, j'ai une petite idée, mais bon, je pense qu'il sera nécessaire de leur faire préciser tous ces points. Et puis, est-ce que ça a un impact sur leur santé, enfin sur la prise en charge de leur santé? Et puis de la qualité de vie surtout, encore une fois. C'est vraiment ça qui importe, c'est que les gens puissent vivre au mieux malgré la maladie.
Et oui, la qualité de vie, c'est très important. Alors, même s'il reste un atelier en janvier, quels sont les premiers résultats dont vous pouvez nous parler? Peut-être des témoignages ou alors des changements concrets que vous avez pu observer?
Alors, les tout premiers changements, ça concerne des personnes qui étaient assez fermées, je dirais, hein, qui avaient du mal à s'exprimer, surtout devant le groupe, et qui progressivement, on les a vus commencer à s'exprimer librement, parler de choses assez personnelles, qui a donné lieu à des échanges entre les participants. Ça, c'était vraiment la première chose, ça a été ça, quoi. Et puis, le plaisir aussi d'expliquer un petit peu les solutions. Une dame qui utilise une forme d'agenda, mais sur une feuille unique, pour un certain temps. Elle a une sorte plutôt d'emploi du temps, et elle nous explique comment elle fait. Une autre personne nous explique comment elle se comporte par rapport au rendez-vous, au téléphone, etc. Donc, les voir partager, pour moi, ça a été... c'est vraiment ça, quoi. Le groupe se forme, les gens se rendent service entre eux. Par exemple, une personne qui devait attendre après la séance, finalement, une autre personne lui propose de l'emmener en voiture, parce qu'il pleut. Voilà, déjà le fait de retrouver un mode de vie plus social, il y a certaines personnes qui déjà se sont renfermées, alors qui étaient déjà peut-être pas forcément très très ouvertes à l'extérieur, peut-être aussi, hein, des personnes qui avaient déménagé récemment, par exemple, mais qui là commencent un peu à s'ouvrir, et ça c'est formidable. Ça je l'ai constaté déjà.
Et est-ce que les participants vous disent des choses? Je me sens mieux, je me sens moins stressé, avec mon proche aidant, ça va mieux.
Ah, c'est des choses qu'on entend, tout à fait, oui. Le fait d'être moins stressé, il y a des personnes qui disent ne pas être stressé, naturellement pas stressé. Bon. Mais d'autres personnes, oui, expriment la façon dont leur stress se transmet, hein, enfin se ressent, en fait, plutôt. Et ça, effectivement, on en a parlé lors du dernier atelier, qui était justement sur le stress. Les gens se sentent mieux. Et... je pense, communiquent mieux avec leur entourage.
Et puis, dernière question pour toutes les personnes qui nous écoutent. Comment s'inscrire à ce programme?
Alors, ce programme, il suffit de contacter l'association départementale dont la personne dépend. Les gens, par exemple, chez nous, nous contactent à France Alzheimer Eure-et-Loir. Nous avons nos coordonnées qui sont assez présentes, notamment sur une page Facebook et également sur le site web. Le mieux, c'est de nous appeler et... nous aurons un plaisir de les recevoir. Par contre, ce qu'on va faire, parce que là, on a beaucoup de mal aujourd'hui à avoir suffisamment de personnes pour créer un groupe homogène, hein, c'est un petit peu dommage. Là, on avait un groupe de 4 personnes, hein, pour tout dire. Mais ce qui correspondait très bien, parce que notre local étant assez exigu, eh bien, on pouvait les faire sur place tout en respectant les contraintes sanitaires. Mais on a une forte... on a vraiment besoin de mieux... Là, on l'a un petit peu laissé de côté avec la crise sanitaire... c'est d'aller au plus près des gens, aller au plus près aussi des soignants, des médecins, des gériatres, des gens qui sont susceptibles d'aiguiller les personnes en début de maladie vers nous. Mais sinon, il suffit de nous appeler. Voilà, donc nous offrons aussi d'autres services, je pense à la formation des aidants, aux entretiens, à la relaxation, et puis les ateliers de mobilisation cognitive également, qui concernent également les personnes malades, les personnes aidées.
Alors Sylvie, le mot de la fin vous revient. Je sais que suite aux ateliers, vous et d'autres personnes qui y ont participé ont organisé un groupe d'entraide. Comment vous voyez l'après ?
Alors pour le moment, donc, on a fait donc, les groupes d'entraide depuis. Hein, ça fait un an presque hein, qu'on a terminé les ETP. Nous, on a commencé dès que les ETP ont été mis en place. Donc là, on se voit tous les mois, une fois par mois, donc pour discuter aussi, pareil, un groupe d'entraide, mais c'est un groupe de parole en fait. On parle de notre quotidien, ce qu'on a fait pendant le mois qui est venu. Donc ça nous permet aussi d'essayer de nous rappeler dans notre mémoire ce qu'on a pu faire dans le mois, déjà. Et si on a rencontré des difficultés d'en parler ce jour-là, donc c'est très important que ça continue. En fait, il ne faut pas que ça s'arrête au bout de 6 séances parce que ça serait dramatique. On se retrouverait seul de nouveau. Et là, je vois, ben, avec certains, on s'est donné les numéros de téléphone. On peut s'appeler si on a envie de s'appeler. On a un lien beaucoup plus profond qu'au début des ETP. En fait, c'est pas pareil maintenant. Et là, ça va se continuer normalement par des ateliers cognitifs qu'on va faire encore ensemble et peut-être intégrer dans ces groupes-là d'autres personnes qui sont malades jeunes qui vont arriver dans notre secteur. Parce que pour le moment, on n'est que 4, mais on recherche d'autres personnes pour qu'ils puissent nous rejoindre. En fait, qu'on ne soit pas nous seulement tous les 4. Hein. Il faut aussi pouvoir se sortir de notre groupe aussi et puis en voir d'autres. Donc voilà, donc on aimerait bien qu'il y ait d'autres personnes qui rentrent dans ces groupes d'ateliers cognitifs par la suite.
Et rappelons-le pour tous ceux qui nous écoutent que ces formations sont gratuites. Merci beaucoup Sylvie d'avoir participé à cette émission.
Eh ben, je vous remercie à vous aussi.
Et merci aussi à vous, Michel Barrier.
Merci à vous.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Continuez de nous écouter, de nous écrire. Et puis vous pouvez également réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.